Consuelo, livre 3, chapitre 100. Dès le second relais, Consuelo avait reconnu dans le domestique qui l'accompagnait et qui, placé sur le siège de la voiture, payait les guides et gourmandait la lenteur des postillons, ce même éduc qui avait annoncé le comte Auditz, le jour où il était venu lui proposer la partie de plaisir de Roswald. Ce grand et fort garçon, qui la regardait toujours comme à la dérobée, et qui semblait partagé entre le désir et la crainte de lui parler, finit par fixer son attention. Et, un matin qu'elle déjeunait dans une auberge isolée au pied des montagnes, le porpora ayant été faire un tour de promenade à la chasse de quelque motif musical, en attendant que les chevaux eussent rafraîchi, elle se tourna vers ce valet, au moment où il lui présentait son café, et le regarda en face, d'un air un peu sévère et irrité. Mais il fit alors une si piteuse mine qu'elle ne put retenir un grand éclat de rire. Le soleil d'avril brillait sur la neige qui couronnait encore les monts, et notre jeune voyageuse se sentait en belle humeur. « Hélas !» lui dit enfin le mystérieux éduc, « votre seigneurie ne daigne donc pas me reconnaître ?» Moi, je l'aurais toujours reconnue, fût-elle déguisée en turc ou en caporal prussien. Et pourtant, je ne l'avais vue qu'un instant, mais quel instant dans ma vie !» En parlant ainsi, il posa sur la table le plateau qu'il apportait, et, s'approchant de Consuelo, il fit gravement un grand signe de croix, mit un genou en terre et baisa le plancher devant elle.
« Ah ! » s'écria Consuelo.
« Karl, le déserteur, n'est-ce pas ?»«
Oui, signora, » répondit Karl en baisant la main qu'elle lui tendait. « Du moins, on m'a dit qu'il fallait vous appeler ainsi, quoique je n'ai jamais bien compris si vous étiez un monsieur ou une dame. »«
En vérité, et d'où vient ton incertitude ?»«
C'est que je vous ai vu garçon, et que depuis, quoique je vous ai bien reconnu, vous étiez devenu aussi semblable à une jeune fille que vous étiez auparavant semblable à un petit garçon. » Mais cela ne fait rien. Soyez ce que vous voudrez. Vous m'avez rendu des services que je n'oublierai jamais. Et vous pourriez me commander de me jeter du sommet de ce pic qui est là-haut, si cela vous faisait plaisir. Je ne vous le refuserai pas.
Je ne te demande rien, mon brave Karl, que d'être heureux et de jouir de ta liberté. Car te voilà libre, et je pense que tu aimes la vie maintenant.
Libre, oui, dit Karl en secouant la tête. Mais heureux, j'ai perdu ma pauvre femme. »
Les yeux de Consuelo se remplirent de larmes, par un mouvement sympathique, en voyant les joues carrées du pauvre Karl se couvrir d'un ruisseau de pleurs.
« Ah ! » dit-il en secouant sa moustache rousse, d'où les larmes dégouttaient comme la pluie d'un buisson. « Elle avait trop souffert, la pauvre âme. Le chagrin de me voir enlevée une seconde fois par les Prussiens, un long voyage à pied, lorsqu'elle était déjà bien malade. Ensuite, la joie de me revoir, tout cela lui a causé une révolution. Et elle est morte 8 jours après être arrivée à Vienne, où je la cherchais, et où, grâce à un billet de vous, elle m'avait retrouvée avec l'aide du comte Auditz. Ce généreux seigneur lui avait envoyé son médecin et des secours, mais rien n'y a fait. Elle était fatiguée de vivre, voyez-vous, et elle a été se reposer dans le ciel du bon Dieu.
« Et ta fille ?» dit Consuelo, qui songeait à le ramener à une idée consolante.
« Ma fille, » dit-il d'un air sombre et un peu égaré, « le roi de Prusse me l'a tuée aussi. »«
Comment tuer ? Que dis-tu ? »
« N'est-ce pas le roi de Prusse qui a tué la mère en lui causant tout ce mal ? Eh bien, l'enfant a suivi la mère. Depuis le soir, où, m'ayant vu frapper au sang, garrottée et emportée par les recruteurs, toutes deux étaient restées, couchées comme mortes en travers du chemin, la petite avait toujours tremblé d'une grosse fièvre. La fatigue et la misère de la route les ont achevées. Quand vous les avez rencontrées sur un pont, à l'entrée de je ne sais plus quel village d'Autriche, il y avait 2 jours qu'elles n'avaient rien mangé. Vous leur avez donné de l'argent, vous leur avez appris que j'étais sauvée, vous avez tout fait pour les consoler et les guérir. Elles m'ont dit tout cela. Mais il était trop tard. Elles n'ont fait qu'empirer depuis notre réunion. et au moment où nous pouvions être heureux, elles se sont en allées dans le cimetière. La terre n'était pas encore foulée sur le corps de ma femme quand il a fallu recreuser le même endroit pour y mettre mon enfant. Et à présent, grâce au roi de Prusse, Karl est seul au monde.
Non, mon pauvre Karl, tu n'es pas abandonné. Il te reste des amis qui s'intéresseront toujours à tes infortunes et à ton bon cœur.
Je le sais. Oui, il y a de braves gens, et vous en êtes. Mais de quoi ai-je besoin maintenant que je n'ai plus ni femme, ni enfant, ni pays? Car je ne serai jamais en sûreté dans le mien. Ma montagne est trop bien connue de ces brigands qui sont venus m'y chercher deux fois. Aussitôt que je me suis vue seule, j'ai demandé si nous étions en guerre ou si nous y serions bientôt. Je n'avais qu'une idée. C'était de servir contre la Prusse, afin de tuer le plus de Prussiens que je pourrais. Ah, Saint Wenceslas, le patron de la Bohême, aurait conduit mon bras, et je suis bien sûr qu'il n'y aurait pas eu une seule balle perdue sortie de mon fusil. Et je me disais, peut-être la Providence permettra-t-elle que je rencontre le roi de Prusse dans quelque défilé. Et alors, fût-il cuirassé comme l'archange Michel, dussé-je le suivre comme un chien suit un loup à la piste? Mais j'ai appris que la paix était assurée pour longtemps. Et alors, ne me sentant plus de goût à rien, j'ai été trouver monseigneur le comte Auditz pour le remercier et le prier de ne point me présenter à l'impératrice, comme il en avait eu l'intention. Je voulais me tuer. Mais il a été si bon pour moi, et la princesse de Kulmbach, sa belle-fille, à qui il avait raconté en secret toute mon histoire, m'a dit de si belles paroles sur les devoirs du chrétien que j'ai consenti à vivre et à entrer à leur service, où je suis, en vérité, trop bien nourrie et trop bien traitée pour le peu d'ouvrage que j'ai à faire.
« Maintenant, dis-moi, mon cher Karl, » reprit Consuelo en s'essuyant les yeux, « comment tu as pu me reconnaître ?»
N'êtes-vous pas venu un soir chanter chez ma nouvelle maîtresse, madame la margrave? Je vous vis passer tout habillée de blanc, et je vous reconnus tout de suite, bien que vous fussiez devenue une demoiselle. C'est que, voyez-vous, je ne me souviens pas beaucoup des endroits où j'ai passé, ni des noms des personnes que j'ai rencontrées. Mais pour ce qui est des figures, je ne les oublie jamais. Je commençais à faire le signe de la croix quand je vis un jeune garçon qui vous suivait et que je reconnus pour Joseph. Et au lieu d'être votre maître, comme je l'avais vu au moment de ma délivrance, car il était mieux habillé que vous dans ce temps-là, il était devenu votre domestique et il resta dans l'antichambre. Il ne me reconnut pas. Et comme monsieur le comte m'avait défendu de dire un seul mot à qui que ce soit de ce qui m'était arrivé, je n'ai jamais su ni demander pourquoi. Je ne parlais pas à ce bon Joseph, quoique j'eusse bien envie de lui sauter au cou. Il s'en alla presque tout de suite dans une autre pièce. J'avais ordre de ne point quitter celle où je me trouvais. Un bon serviteur ne connaît que sa consigne. Mais quand tout le monde fut parti, le valet de chambre de monseigneur, qui a toute sa confiance, me dit « Karl, tu n'as pas parlé à ce petit laquais du Porpora, quoique tu l'aies reconnu, et tu as bien fait. » Monsieur le comte sera content de toi. Quant à la demoiselle qui a chanté ce soir, « Oh, je l'ai reconnue aussi, » m'écriai-je, « et je n'ai rien dit. » « Eh bien, » ajouta-t-il, « tu as encore bien fait. Monsieur le comte ne veut pas qu'on sache qu'elle a voyagé avec lui jusqu'à Passau. »«
Cela ne me regarde point, » repris-je. « Mais puis-je te demander à toi comment elle m'a délivré des mains des Prussiens ?»
Henri me raconta alors comment la chose s'était passée. Car il était là. Comment vous aviez couru après la voiture de monsieur le comte, et comment, lorsque vous n'aviez plus rien à craindre pour vous-même, vous aviez voulu absolument qu'il vînt me délivrer. Vous en aviez dit quelque chose à ma pauvre femme, et elle me l'avait raconté aussi, car elle est morte en vous recommandant au bon Dieu, et en me disant « Ce sont de pauvres enfants qui ont l'air presque aussi malheureux que nous, et cependant ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient. » Et ils pleuraient comme si nous eussions été de leur famille. Aussi, quand j'ai vu monsieur Joseph à votre service, ayant été chargé de lui porter quelque argent de la part de monseigneur, chez qui il avait joué du violon un autre soir, j'ai mis dans le papier quelques ducats, les premiers que j'eusse gagnés dans cette maison. Il ne l'a pas su, et il ne m'a pas reconnu, lui. mais si nous retournons à Vienne, je m'arrangerai pour qu'il ne soit jamais dans l'embarras tant que je pourrai gagner ma vie.
Joseph n'est plus à mon service, bon Karl, il est mon ami, il n'est plus dans l'embarras, il est musicien et gagnera sa vie aisément. Ne te dépouille donc pas pour lui.
Quant à vous, signora, dit Karl, je ne puis pas grand-chose pour vous, puisque vous êtes une grande actrice à ce qu'on dit. Mais voyez-vous, si jamais vous vous trouvez dans la position d'avoir besoin d'un serviteur et de ne pouvoir le payer, adressez-vous à Karl et comptez sur lui. Il vous servira pour rien et sera bien heureux de travailler pour vous.
Je suis assez payé par ta reconnaissance, mon ami. Je ne veux rien de ton dévouement.
Voici maître Porpora qui revient. Souvenez-vous, signora, que je n'ai pas l'honneur de vous connaître autrement que comme un domestique mis à vos ordres par mon maître.
Le lendemain, nos voyageurs s'étant levés de grand matin, arrivèrent, non sans peine, vers midi au château de Roswald. Il était situé dans une région élevée, au versant des plus belles montagnes de la Moravie, et si bien abrité des vents froids que le printemps s'y faisait déjà sentir, lorsqu'à une demi-lieue aux alentours, l'hiver régnait encore. Quoique la saison fût prématurément belle, les chemins étaient encore fort peu praticables. Mais le comte Auditz, qui ne doutait de rien et pour qui l'impossible était une plaisanterie, était déjà arrivé et déjà faisait travailler une centaine de pionniers à aplanir la route sur laquelle devait rouler le lendemain l'équipage majestueux de sa noble épouse. Il eût été peut-être plus conjugal et plus secourable de voyager avec elle, mais il ne s'agissait pas tant de l'empêcher de se casser bras et jambes en chemin que de lui donner une fête. Et, morte ou vive, il fallait qu'elle eût un splendide divertissement en prenant possession du palais de Roswald. Le comte permit à peine à nos voyageurs de changer de toilette et leur fit servir un fort beau dîner dans une grotte mousseuse et rocailleuse, qu'un vaste poêle, habilement masqué par de fausses roches, chauffait agréablement. Au premier coup d'œil, cet endroit parut enchanteur à Consuelo. Le site qu'on découvrait de l'ouverture de la grotte était réellement magnifique. La nature avait tout fait pour Roswald. Des mouvements de terrains escarpés et pittoresques, des forêts d'arbres verts, des sources abondantes, d'admirables perspectives, des prairies immenses. Il semble qu'avec une habitation confortable, c'en était bien assez pour faire un lieu de plaisance accompli. Mais Consuelo s'aperçut bientôt des bizarres recherches par lesquelles le comte avait réussi à gâter cette sublime nature. La grotte eût été charmante sans le vitrage, qui en faisait une salle à manger intempestive. Comme les chèvrefeuilles et les liserons ne faisaient encore que bourgeonner, on avait masqué les châssis des portes et des croisées avec des feuillages et des fleurs artificielles, qui faisaient là une prétentieuse grimace. Les coquillages et les stalactites, un peu endommagés par l'hiver, laissaient voir le plâtre et le mastic qui les attachaient aux parois du roc, et la chaleur du poêle, fondant un reste d'humidité amassé à la voûte, faisait tomber sur la tête des convives une pluie noirâtre et malsaine, que le comte ne voulait pas du tout apercevoir. Le Porpora en prit de l'humeur, et deux ou trois fois mit la main à son chapeau, sans oser cependant l'enfoncer sur son chef, comme il en mourait d'envie. Il craignait surtout que Consuelo ne s'enrhumât, et il mangeait à la hâte, prétextant une vive impatience de voir la musique qu'il aurait à faire exécuter le lendemain.
« De quoi vous inquiétez-vous là, cher maestro ?» disait le comte, qui était grand mangeur et qui aimait à raconter longuement l'histoire de l'acquisition ou de la confection dirigée par lui de toutes les pièces riches et curieuses de son service de table. Des musiciens habiles et consommés comme vous n'ont besoin que d'une petite heure pour se mettre au fait. Ma musique est simple et naturelle. Je ne suis pas de ces compositeurs pédants qui cherchent à étonner par de savantes et bizarres combinaisons harmoniques. À la campagne, il faut de la musique simple, pastorale. Moi, je n'aime que les chants purs et faciles. C'est aussi le goût de Madame la Margrave. Vous verrez que tout ira bien. D'ailleurs, nous ne perdons pas de temps. Pendant que nous déjeunons ici, mon majordome prépare tout suivant mes ordres, et nous allons trouver les chœurs disposés dans leurs différentes stations et tous les musiciens à leur poste. » Comme il disait cela, on vint d'avertir monseigneur que deux officiers étrangers, en tournée dans le pays, demandaient la permission d'entrer et de saluer le comte, pour visiter, avec son agrément, les palais et les jardins de Rosfald. Le comte était habitué à ces sortes de visites, et rien ne lui faisait plus de plaisir que d'être lui-même le cicerone des curieux, à travers les délices de sa résidence. « Qu'ils entrent, qu'ils soient les bienvenus !» s'écria-t-il. « Qu'on mette leurs couverts et qu'on les amène ici !» Peu d'instants après, les deux officiers furent introduits. Ils avaient l'uniforme prussien. Celui qui marchait le premier, et derrière lequel son compagnon semblait décidé à s'effacer entièrement, était petit et d'une figure assez maussade. Son nez, long, lourd et sans noblesse, faisait paraître plus choquants encore le ravalement de sa bouche et la fuite, ou plutôt l'absence de son menton. Sa taille un peu voûtée donnait je ne sais quel air vieillot à sa personne engoncée dans le disgracieux habit inventé par Frédéric. Cet homme avait cependant une quarantaine d'années, tout au plus. Sa démarche était assurée, et lorsqu'il eut ôté le vilain chapeau qui lui coupait la face jusqu'à la naissance du nez, il montra ce qu'il y avait de beau dans sa tête. Un front ferme, intelligent et méditatif, des sourcils mobiles et des yeux d'une clarté et d'une animation extraordinaires. Son regard le transformait comme ces rayons du soleil qui colorent et embellissent tout à coup les sites les plus mornes et les moins poétiques. Il semblait grandir de toute la tête lorsque ses yeux brillaient sur son visage blême, chétif et inquiet. Le comte Auditz les reçut avec une hospitalité plus cordiale que cérémonieuse, et sans perdre le temps à de longs compliments, il leur fit mettre deux couverts et leur servit des meilleurs plats, avec une véritable bonhomie patriarcale. Car Auditz était le meilleur des hommes, et sa vanité, loin de corrompre son cœur, l'aidait à se répandre avec confiance et générosité. L'esclavage régnait encore dans ses domaines, et toutes les merveilles de Rosfald avaient été édifiées à peu de frais par la gent taillable et corvéable. Mais il couvrait de fleurs et de gourmandises le joug de ses sujets. Il leur faisait oublier le nécessaire en leur prodiguant le superflu. Et, convaincus que le plaisir est le bonheur, il les faisait tant amuser qu'ils ne songeaient point à être libres. L'officier prussien, car vraiment il n'y en avait qu'un, l'autre semblait n'être que son ombre, parut d'abord étonné, peut-être même un peu choqué du sans-façon de monsieur le comte, et il affectait une politesse réservée lorsque le comte lui dit « Monsieur le capitaine, je vous prie de vous mettre à l'aise et de faire ici comme chez vous. Je sais que vous devez être habitué à la régularité austère des armées du grand Frédéric. Je trouve cela admirable en son lieu. Mais ici, vous êtes à la campagne, et si l'on ne s'amuse à la campagne, qui vient-on faire? Je vois que vous êtes des personnes bien élevées et de bonnes manières. Vous n'êtes certainement pas officier du roi de Prusse, sans avoir fait vos preuves de science militaire et de bravoure accomplie. Je vous tiens donc pour des hôtes dont la présence honore ma maison. Veuillez en disposer sans retenue et y rester tant que le séjour vous en sera agréable. » L'officier prit aussitôt son parti en homme d'esprit, et après avoir remercié son hôte sur le même ton, il se mit à sabler le champagne, qui ne lui fit pourtant pas perdre une ligne de son sang-froid, et à creuser un excellent pâté, sur lequel il fit des remarques et des questions gastronomiques qui ne donnèrent pas grande idée de lui à la très sobre Consuelo. Elle était cependant frappée du feu de son regard, mais ce feu même l'étonnait sans la charmer. Elle y trouvait je ne sais quoi de hautain, de scrutateur et de méfiant qui n'allait point à son cœur. Tout en mangeant, l'officier apprit au comte qu'il s'appelait le baron de Creutz, qu'il était originaire de Silésie, où il venait d'être envoyé en remonte pour la cavalerie, que, se trouvant à Neis, il n'avait pu résister au désir de voir le palais et les jardins tant vantés de Rosfald, qu'en conséquence, il avait passé le matin la frontière avec son lieutenant, non sans mettre le temps et l'occasion à profit pour faire sur sa route quelques achats de chevaux. Il offrit même au comte de visiter ses écuries s'il avait quelques bêtes à vendre. Il voyageait à cheval et s'en retournait le soir même.
« Je ne le souffrirai pas, dit le comte. Je n'ai pas de chevaux à vous vendre dans ce moment. Je n'en ai pas même assez pour les nouveaux embellissements que je veux faire à mes jardins. Mais je veux faire une meilleure affaire en jouissant de votre société le plus longtemps qu'il me sera possible.
Mais nous avons appris en arrivant ici que vous attendiez d'heure en heure Madame la comtesse Auditz, et ne voulant point être à charge, nous nous retirerons aussitôt que nous l'entendrons arriver.
Je n'attends Madame la comtesse Margrave que demain, répondit le comte.
Elle arrivera ici avec sa fille, Madame la princesse de Kulmbach, car vous n'ignorez peut-être pas, messieurs, que j'ai eu l'honneur de faire une noble alliance.
Avec la margrave douairière de Barreit, repartit assez brusquement le baron de Creutz, qui ne parut pas aussi ébloui de ce titre que le comte s'y attendait.
C'est la tante du roi de Prusse, reprit-il avec un peu d'emphase.
Oui, oui, je le sais, répliqua l'officier prussien en prenant une large prise de tabac.
Et comme c'est une dame admirablement gracieuse et affable, continua le comte, je ne doute pas qu'elle n'ait un plaisir infini à recevoir et à traiter de braves serviteurs du roi, son illustre neveu.
Nous serions bien sensibles à un si grand honneur, dit le baron en souriant, mais nous n'aurons pas le loisir d'en profiter. Nos devoirs nous rappellent impérieusement à notre poste, et nous prendrons congé de votre excellence ce soir même. En attendant, nous serions bien heureux d'admirer cette belle résidence. Le roi, notre maître, n'en a pas une qu'on puisse comparer à celle-ci. »
Ce compliment rendit aux Prussiens toute la bienveillance du seigneur Morave. On se leva de table. Le Porpora, qui se souciait moins de la promenade que de la répétition, voulut s'en dispenser.
« Non pas, dit le comte. Promenade et répétition, tout cela se fera en même temps. Vous allez voir, mon maître. »
Il offrit son bras à Consuelo et, passant le premier, « Pardonnez, messieurs, dit-il, si je m'empare de la seule dame que nous ayons ici dans ce moment. C'est le droit du Seigneur. Ayez la bonté de me suivre. Je serai votre guide. »
« Oserais-je vous demander, monsieur, dit le baron de Creutz, adressant pour la première fois la parole au Porpora. « Quelle est cette aimable dame ?»«
Monsieur, répondit le Porpora, qui était de mauvaise humeur, « je suis italien, j'entends assez mal l'allemand, et le français encore moins. »
Le baron, qui jusque-là avait toujours parlé français avec le comte, selon l'usage de ce temps-là entre les gens du bel air, répéta sa demande en italien.
Cette aimable dame, qui n'a pas encore dit un mot devant vous, répondit sèchement le Porpora, n'est ni margrave, ni douairière, ni princesse, ni baronne, ni comtesse. C'est une chanteuse italienne qui ne manque pas d'un certain talent.
Je m'intéresse d'autant plus à la connaître et à savoir son nom, reprit le baron en souriant de la brusquerie du maestro.
C'est la Porporina, mon élève, répondit le Porpora.
C'est une personne fort habile, dit-on, reprit l'autre, et qui est attendue avec impatience à Berlin. Puisqu'elle est votre élève, je vois que c'est à l'illustre maître Porpora que j'ai l'honneur de parler.
Pour vous servir, répliqua le Porpora d'un ton bref, en renfonçant sur sa tête son chapeau qu'il venait de soulever, en réponse au profond salut du baron de Creutz. Celui-ci, le voyant si peu communicatif, le laissa avancer et se tint en arrière avec son lieutenant. Le Porpora, qui avait des yeux jusque derrière la tête, vit qu'ils riaient ensemble en le regardant et en parlant de lui dans leur langue. Il en fut d'autant plus mal disposé pour eux et ne leur adressa pas même un regard durant toute la promenade.
Chapitre 101. On descendit d'une petite pente, assez rapide, au bas de laquelle on trouva une rivière en miniature, qui avait été un joli torrent limpide et agité, mais comme il fallait le rendre navigable, on avait égalisé son lit,
adoucit sa pente, taillé proprement ses rives et troublé ses belles ondes par de récents travaux. Les ouvriers étaient encore occupés à le débarrasser de quelques roches que l'hiver y avait précipitées et qui lui donnaient un reste de physionomie. On s'empressait de la faire disparaître. Une gondole attendait là les promeneurs, une vraie gondole que le comte avait fait venir de Venise et qui fit battre le cœur de Consuelo en lui rappelant mille souvenirs gracieux et amers. On s'embarqua. Les gondoliers étaient aussi de vrais Vénitiens, parlant leur dialecte. On les avait fait venir avec la barque, comme de nos jours les nègres avec la girafe. Le comte Auditz, qui avait beaucoup voyagé, s'imaginait parler toutes les langues. Mais, quoiqu'il y mît beaucoup d'aplomb, et que, d'une voix haute, d'un ton accentué, il donna ses ordres aux gondoliers, ceux-ci l'eussent compris avec peine si Consuelo ne lui eût servi de truchement. Il leur fut enjoint de chanter des vers du Tasse. Mais ces pauvres diables, enroués par les glaces du Nord, dépaysés et déroutés dans leurs souvenirs, donnèrent aux Prussiens un fort triste échantillon de leur savoir-faire. Il fallut que Consuelo leur soufflât chaque strophe et promit de leur faire faire une répétition des fragments qu'ils devaient chanter le lendemain à Madame la Margrave. Quand on eut navigué un quart d'heure dans un espace qu'on eût pu traverser en 3 minutes, mais où l'on avait ménagé au pauvre ruisseau contrarié dans sa course 1000 détours insidieux, on arriva à la pleine mer. C'était un assez vaste bassin où l'on déboucha à travers des massifs de cyprès et de sapins, et dont le coup d'œil inattendu était vraiment agréable. Mais on n'eut pas le loisir de l'admirer. Il fallut s'embarquer sur un navire de poche où rien ne manquait. Mât, voile, cordage, c'était un modèle accompli de bâtiment avec tous ses agrès, et que le trop grand nombre de matelots et de passagers faillit faire sombrer. Le porpora y eut froid. Les tapis étaient fort humides, et je crois bien que malgré l'exacte revue que monsieur le comte, arrivé de la veille, avait faite déjà de toutes les pièces, l'embarcation faisait haut. Personne ne s'y sentait à l'aise, excepté le comte, qui, par grâce d'état, ne se souciait jamais des petits désagréments attachés à ses plaisirs. Et Consuelo, qui commençait à s'amuser beaucoup de la folie de son hôte. Une flotte proportionnée à ce vaisseau de commandement vint se placer sous ses ordres, exécuta des manœuvres que le comte lui-même, armé d'un porte-voix et debout sur la poupe, dirigea fort sérieusement, se fâchant fort quand les choses n'allaient point à son gré, et faisant recommencer la répétition. Ensuite, on voyagea de conserve au son d'une musique de cuivre abominablement fausse, qui acheva d'exaspérer le porpora. « Passe pour nous faire geler et enrhumer, » disait-il entre ses dents. « Mais nous écorcher les oreilles à ce point, c'est trop fort. »« Voile pour le Péloponnèse !» s'écria le comte. Et on cingla vers une rive couronnée de menues fabriques imitant des temples grecs et d'antiques tombeaux. On se dirigeait sur une petite anse masquée par des rochers, et lorsqu'on en fut à 10 pas, on fut accueilli par une décharge de coups de fusil. 2 hommes tombèrent morts sur le tillac, et un jeune mousse fort léger, qui se tenait dans les cordages, jeta un grand cri, descendit, ou plutôt se laissa glisser adroitement, et vint se rouler au beau milieu de la société, en hurlant qu'il était blessé et en cachant dans ses mains sa tête, soi-disant fracassée d'une balle. « Ici, dit le comte à Consuelo, j'ai besoin de vous pour une petite répétition que je fais faire à mon équipage. Ayez la bonté de représenter pour un instant le personnage de Madame la Margrave et de commander à cet enfant mourant ainsi qu'à ses 2 morts, qui, par parenthèse, sont fort bêtement tombés, de se relever, d'être guéri à l'instant même, de prendre leurs armes et de défendre son Altesse contre les insolents pirates retranchés dans cette embuscade. » Consuelo se hâta de se prêter au rôle de Margrave et le joua avec beaucoup plus de noblesse et de grâce naturelle que ne l'eût fait Madame Auditz. Les morts et les mourants se relevèrent sur leurs genoux et lui baisèrent la main. Là, il leur fut enjoint par le comte de ne point toucher tout de bon de leur bouche vassale la noble main de son Altesse, mais de baiser leur propre main en feignant d'approcher leurs lèvres de la sienne. puis, morts et mourants coururent aux armes en faisant de grandes démonstrations d'enthousiasme. Le petit saltimbanque, qui faisait le rôle de mousse, regrimpa comme un chat sur son mât et déchargea une légère carabine sur la baie des pirates. La flotte se serra autour de la nouvelle Cléopâtre et les petits canons firent un vacarme épouvantable. Consuelo, averti par le comte qui ne voulait pas lui causer une frayeur sérieuse, n'avait point été dupe du début un peu bizarre de cette comédie. Mais les deux officiers prussiens, envers lesquels il n'avait pas jugé nécessaire de pratiquer la même galanterie, voyant tomber deux hommes au premier feu, s'étaient serrés l'un contre l'autre en pâlissant. Celui qui ne disait rien avait paru effrayé pour son capitaine, et le trouble de ce dernier n'avait pas échappé au regard tranquillement d'observateur de Consuelo. Ce n'était pourtant pas la peur qui s'était peinte sur sa physionomie, mais, au contraire, une sorte d'indignation, de colère même, comme si la plaisanterie l'eût offensé personnellement et lui eût semblé un outrage à sa dignité de Prussien et de militaire. Auditz n'y prit pas garde, et lorsque le combat fut engagé, le capitaine et son lieutenant riaient aux éclats et acceptaient au mieux le badinage. Ils mirent même l'épée à la main et s'escrimèrent en l'air pour prendre part à la scène. Les pirates, montés sur des barques légères, vêtus à la grecque et armés de tremblons et de pistolets chargés à poudre, étaient sortis de leurs jolis petits récifs et se battaient comme des lions. On les laissa venir à l'abordage, où l'on en fit grande déconfiture, afin que la bonne margrave eût le plaisir de les ressusciter. La seule cruauté commise fut d'en faire tomber quelques-uns à la mer. L'eau du bassin était bien froide, et Consuelo les plaignait lorsqu'elle vit qu'ils y prenaient plaisir et mettaient de la vanité à montrer à leurs compagnons montagnards qu'ils étaient bons nageurs. Quand la flotte de Cléopâtre, car le navire que devait monter la margrave portait réellement ce titre pompeux, eût été victorieuse, comme de raison, elle emmena prisonnière la flottille des pirates à sa suite et s'en alla au son d'une musique triomphale. Apporter le diable en terre, au dire du Porpora, explorer les rivages de la Grèce. On approcha ensuite d'une île inconnue, d'où l'on voyait s'élever des huttes de terre et des arbres exotiques, fort bien acclimatés ou fort bien imités, car on ne savait jamais à quoi s'en tenir à cet égard, le faux et le vrai étant confondus partout. Aux marges de cette île étaient amarrées des pirogues. Les naturels du pays s'y jetèrent avec des cris très sauvages et vinrent à la rencontre de la flotte, apportant des fleurs et des fruits étrangers récemment coupés dans les serres chaudes de la résidence. Ces sauvages étaient hérissés, tatoués, crépus et plus semblables à des diables qu'à des hommes. Les costumes n'étaient pas trop bien assortis. Les uns étaient couronnés de plumes, comme des Péruviens, les autres empaquetés de fourrures, comme des Esquimaux. Mais on n'y regardait pas de si près. Pourvu qu'ils fussent bien laids et bien ébouriffés, on les tenait pour anthropophages tout au moins. Ces bonnes gens firent beaucoup de grimaces, et leur chef, qui était une espèce de géant, ayant une fausse barbe qui lui tombait jusqu'à la ceinture, vint faire un discours que le comte Auditz avait pris la peine de composer lui-même en langue sauvage. C'était un assemblage de syllabes ronflantes et croquantes, arrangées au hasard pour figurer un patois grotesque et barbare. Le comte, lui ayant fait réciter sa tirade sans faute, se chargea de traduire cette belle harangue à Consuelo, qui faisait toujours le rôle de margrave, en attendant la véritable. « Ce discours signifie, madame, lui dit-il en imitant les salamalecs du roi sauvage, que cette peuplade de cannibales, dont l'usage est de dévorer tous les étrangers qui abordent dans leur île, subitement touchés et apprivoisés par l'effet magique de vos charmes, vient déposer à vos pieds l'hommage de sa férocité et vous offrir la royauté de ses terres inconnues. Daignez y descendre sans crainte. Et, quoiqu'elles soient stériles et incultes, les merveilles de la civilisation vont y éclore sous vos pas. » On aborda dans l'île, au milieu des chants et des danses des jeunes sauvagesses. Des animaux étranges et prétendus féroces, mannequins empaillés, qui, au moyen d'un ressort, s'agenouillèrent subitement, saluèrent Consuelo sur le rivage. Puis, À l'aide de cordes, les arbres et les buissons fraîchement plantés s'abattirent. Les rochers de carton s'écroulèrent et l'on vit des maisonnettes décorées de fleurs et de feuillages. Des bergères conduisant de vrais troupeaux, Odits n'en manquait pas. Des villageois habillés à la dernière mode de l'opéra, quoiqu'un peu malpropres vus de près. Enfin, jusqu'à des chevreuils et des biches apprivoisées, vinrent prêter foi et hommage à la nouvelle souveraine. « C'est ici, dit alors le comte à Consuelo, que vous aurez à jouer un rôle demain devant son Altesse. On vous procurera le costume d'une divinité sauvage, toute couverte de fleurs et de rubans, et vous vous tiendrez dans la grotte que voici. La margrave y entrera, et vous chanterez la cantate que j'ai dans ma poche, pour lui céder vos droits à la divinité, vu qu'il ne peut y avoir qu'une déesse, là où elle daigne apparaître. « Voyons la cantate, » dit Consuelo, en recevant le manuscrit dont Odits était l'auteur. Il ne lui fallut pas beaucoup de peine pour lire et chanter à la première vue ce pont-neuf ingénu. Paroles et musique, tout était à l'avenant. Il ne s'agissait que de l'apprendre par cœur. Deux violons, une harpe et une flûte cachées dans les profondeurs de l'antre l'accompagnaient tout de travers. Le porpora fit recommencer. Au bout d'un quart d'heure, tout alla bien. Ce n'était pas le seul rôle que Consuelo eut à faire dans la fête, ni la seule cantate que le comte Odits eut dans sa poche. Elles étaient courtes, heureusement. Il ne fallait pas fatiguer son Altesse par trop de musique. À l'île sauvage, on remit à la voile et on alla prendre terre sur un rivage chinois. Tours imitant la porcelaine, kiosques, jardins rabougris, petits ponts, jonques et plantations de thé, rien n'y manquait. Les lettres et les mandarins, assez bien costumés, vinrent faire un discours chinois à la margrave. Et Consuelo, qui dans le trajet devait changer de costume dans la cale d'un des bâtiments et s'affubler en mandarine, dut essayer des couplets en langue et musique chinoise, toujours de la façon du conte Odits. Ping, pang, tiong, hi, han, hong. Tel était le refrain qui était censé signifier, grâce à la puissance d'abréviation que possédait cette langue merveilleuse, belle margrave, grande princesse, idole de tous les cœurs, régnez à jamais sur votre heureux époux et sur votre joyeux empire de Roswald en Moravie. En quittant la Chine, on monta dans des palanquins très riches, et on gravit, sur les épaules des pauvres serfs chinois et sauvages, une petite montagne au sommet de laquelle on trouva la ville de Lilliput. Maisons, forêts, lacs, montagnes, le tout vous venait au genou ou à la cheville, et il fallait se baisser pour voir, dans l'intérieur des habitations, les meubles et les ustensiles de ménage qui étaient dans des proportions relatives à tout le reste. Des marionnettes dansèrent sur la place publique au son des mirlitons, des guimbardes et des tambours de basque. Les personnes qui les faisaient agir et qui produisaient cette musique lilliputienne étaient cachées sous terre et dans des caveaux ménagés exprès. En redescendant la montagne des Lilliputiens, on trouva un désert d'une centaine de pas, tout encombré de rochers énormes et d'arbres vigoureux livrés à leur croissance naturelle. C'était le seul endroit que le comte n'eût pas gâté et mutilé. Il s'était contenté de le laisser tel qu'il l'avait trouvé. L'usage de cette gorge escarpée m'a bien longtemps embarrassé, dit-il à ses hôtes. Je ne savais comment me délivrer de ces masses de rochers, ni quelle tournure donner à ces arbres superbes, mais désordonnés. Tout à coup, l'idée m'est venue de baptiser ce lieu le désert, le chaos. Et j'ai pensé que le contraste n'en serait pas désagréable, surtout lorsqu'au sortir de ces horreurs de la nature, on rentrerait dans des parterres admirablement soignés et parés. Pour compléter l'illusion, vous allez voir quelle heureuse invention j'y ai placée. » En parlant ainsi, le comte tourna un gros rocher qui encombrait le sentier, car il avait bien fallu fourrer un sentier uni et sablé dans l'horrible désert. Et Consuelo se trouva à l'entrée d'un ermitage creusé dans le roc et surmonté d'une grossière croix de bois. L'anachorète de la Thébaïde en sortit. C'était un bon paysan, dont la longue barbe blanche postiche contrastait avec un visage frais et paré des couleurs de la jeunesse. Il fit un beau sermon, dont son maître corrigea les barbarismes, donna sa bénédiction et offrit des racines et du lait à Consuelo dans une écuelle de bois.
« Je trouve l'ermite un peu jeune, » dit le baron de Creutz. « Vous eussiez pu mettre ici un vieillard véritable. »
« Cela n'eût point plu à la margrave, » répondit ingénument le comte Auditz. « Elle dit avec raison que la vieillesse n'est point égayante, et que dans une fête, il ne faut voir que de jeunes acteurs. »
Je fais grâce au lecteur du reste de la promenade. Ce serait à n'en pas finir si je voulais lui décrire les diverses contrées, les hôtels druidiques, les pagodes indiennes, les chemins et canaux couverts, les forêts vierges, les souterrains où l'on voyait les mystères de la passion taillés dans le roc, les mines artificielles avec salles de bal, les Champs-Élysées, les tombeaux, enfin les cascades, les naïades, les sérénades et les 6000 jets d'eau que le Porpora prétendait, par la suite, avoir été forcé d'avaler. Il y avait bien 1000 autres gentillesses dont les mémoires du temps nous ont transmis le détail avec admiration. Une grotte, à demi-obscure, où l'on s'enfonçait en courant, et au fond de laquelle une glace, en vous renvoyant votre propre image, dans un jour incertain, devait infailliblement vous causer une grande frayeur. Un couvent où l'on vous forçait, sous peine de perdre à jamais la liberté, de prononcer des vœux dont la formule était un hommage d'éternelle soumission et adoration à la margrave. Un arbre à pluie qui, au moyen d'une pompe cachée dans les branches, vous inondait d'encre, de sang ou d'eau de rose, suivant qu'on voulait vous fêter ou vous mystifier. Enfin, 1000 secrets charmants, ingénieux, incompréhensibles, dispendieux surtout, que le Porpora eut la brutalité de trouver insupportable, stupide et scandaleux. La nuit seule mit un terme à cette promenade autour du monde, dans laquelle, tantôt à cheval, tantôt en litière, à âne, en voiture ou en bateau, on avait bien fait 3 lieues. Aguerris contre le froid et la fatigue, les deux officiers prussiens, tout en riant de ce qu'il y avait de trop puéril dans les amusements et les surprises de Roswald, n'avaient pas été aussi frappés que Consuelo du ridicule de cette merveilleuse résidence. Elle était l'enfant de la nature, née en plein champ, accoutumée, dès qu'elle avait eu les yeux ouverts, à regarder les œuvres de Dieu sans rideaux de gaze et sans lorgnons. Mais le baron de Creutz, quoiqu'il ne fût pas tout à fait le premier venu dans cette aristocratie habituée aux draperies et aux enjolivements de la mode, était l'homme de son monde et de son temps. Il ne haïssait point les grottes, les ermitages et les symboles. En somme, il s'amusa avec bonhomie, montra beaucoup d'esprit dans la conversation, et dit à son acolyte, qui, en entrant dans la salle à manger, le plaignait respectueusement de l'ennui d'une aussi rude corvée, « De l'ennui? Moi? Pas du tout. J'ai fait de l'exercice, j'ai gagné de l'appétit, j'ai vu 1000 folies, je me suis reposé l'esprit de choses sérieuses, je n'ai pas perdu mon temps et ma peine. » On fut surpris dans la salle à manger de ne trouver qu'un cercle de chaises autour d'une place vide. Le comte, ayant prié les convives de s'asseoir, ordonna à ses valets de servir. « Hélas, monseigneur !» répondit celui qui était chargé de lui donner la réplique. « Nous n'avions rien qui fût digne d'être offert à une si honorable compagnie, et nous n'avons pas même mis la table. »«
Voilà qui est plaisant !»
s'écria l'amphitryon avec une fureur simulée. Et quand ce jeu eut duré quelques instants,
« Eh bien, dit-il, puisque les hommes nous refusent un souper, j'évoque l'enfer, et je somme Pluton de m'en envoyer un qui soit digne de mes hôtes. »
En parlant ainsi, il frappa le plancher 3 fois, et, le plancher glissant aussitôt dans une coulisse, on vit s'exhaler des flammes odorantes. Puis, au son d'une musique joyeuse et bizarre, une table, magnifiquement servie, vint se placer sous les coudes des convives.
« Ce n'est pas mal, » dit le comte en soulevant la nappe et en parlant sous la table.
Seulement, je suis fort étonnée, puisque messire Pluton sait fort bien qu'il n'y a même pas dans ma maison de l'eau à boire, qu'on ne m'en ait pas envoyé une seule carafe. « Quant aux dites, répondit des profondeurs de l'abîme une voix rauque digne du Tartare. « L'eau est fort rare dans les enfers, car presque tous nos fleuves sont à sec depuis que les yeux de son Altesse Margrave ont embrasé jusqu'aux entrailles de la terre. Cependant, si vous l'exigez, nous allons envoyer une Danaïde au bord du Styx pour voir si elle en pourra trouver.
« Qu'elle se dépêche, répondit le comte, et surtout donnez-lui un tonneau qui ne soit pas percé. »
Au même instant, d'une belle cuvette de jaspe qui était au milieu de la table, s'élança un jet d'eau de roche qui, pendant tout le souper, retomba sur lui-même en gerbe de diamants au reflet des nombreuses bougies. Le surtout était un chef-d'œuvre de richesse et de mauvais goût, et l'eau du Styx, le souper infernal, furent pour le comte matière à mille jeux de mots, allusions et coq à l'âne qui ne valaient guère mieux, mais que la naïveté de son enfantillage lui fit pardonner. Le repas succulent et servi par de jeunes sylvains et des nymphes plus ou moins charmantes égaya beaucoup le baron de Creutz. Il ne fit pourtant qu'une médiocre attention aux belles esclaves de l'amphitryon. Ce pauvre paysanne était à la fois les servantes, les maîtresses, les choristes et les actrices de leur seigneur. Il était leur professeur de grâce, de danse, de chant et de déclamation. Consuelo avait eu à Passau un échantillon de sa manière de procéder avec elle. Et, en songeant au sort glorieux que ce seigneur lui avait offert alors, elle admirait le sang-froid respectueux avec lequel il la traitait maintenant, sans paraître ni surpris ni confus de sa méprise. Elle savait bien que le lendemain les choses changeraient d'aspect à l'arrivée de la margrave, qu'elle dînerait dans sa chambre avec son maître et qu'elle n'aurait pas l'honneur d'être admise à la table de son Altesse. Elle ne s'en embarrassait guère, quoiqu'elle ignorât une circonstance qui l'eût divertie beaucoup en cet instant, à savoir qu'elle soupait avec un personnage infiniment plus illustre, lequel ne voulait pour rien au monde souper le lendemain avec la margrave. Le baron de Creutz, souriant donc d'un air assez froid à l'aspect des nymphes du logis, accorda un peu plus d'attention à Consuelo, lorsque, après l'avoir provoqué à rompre le silence, il l'eut amené à parler sur la musique. Il était amateur éclairé et quasi passionné de cet art divin. Du moins, il en parla lui-même avec une supériorité qui adoucit, non moins que le repas, les bons mets et la chaleur des appartements, l'humeur revêche du Porpora. « Il serait à souhaiter, dit-il enfin au baron qui venait de louer délicatement sa manière sans le nommer, que le souverain que nous allons essayer de divertir fût aussi bon juge que vous. « On assure, répondit le baron, que mon souverain est assez éclairé sur cette matière et qu'il aime véritablement les beaux-arts. » « En êtes-vous bien certain, monsieur le baron ? » reprit le maestro, qui ne pouvait causer sans contredire tout le monde sur toute chose. « Moi, je ne m'en flatte guère. Les rois sont toujours les premiers en tout, au dire de leurs sujets. Mais il arrive souvent que leurs sujets en savent beaucoup plus long qu'eux. » « En fait de guerre, comme en fait de science et de génie, le roi de Prusse en sait plus long qu'aucun de nous, » répondit le lieutenant avec zèle. « Et quant à la musique, il est très certain que vous n'en savez rien, ni moi non plus, » interrompit sèchement le capitaine Creutz. « Maître Porpora ne peut s'en rapporter qu'à lui seul à ce dernier égard. »« Quant à moi, » reprit le maestro, « la dignité royale ne m'en a jamais imposé en fait de musique. » Et quand j'avais l'honneur de donner des leçons à la princesse électorale de Saxe, je ne lui passais pas plus de fausses notes qu'à un autre. « Eh quoi ? » dit le baron en regardant son compagnon avec une intention ironique. « Les têtes couronnées font-elles jamais des fausses notes ?»«
Tout comme les simples mortels, monsieur, » répondit le Porpora. « Cependant, je dois dire que la princesse électorale n'en fit pas longtemps avec moi. » Et qu'elle avait une rare intelligence pour me seconder.
Ainsi, vous pardonneriez bien quelques fausses notes à notre Fritz s'il avait l'impertinence d'en faire en votre présence. À condition qu'il s'en corrigerait.
Mais vous ne lui laveriez pas la tête, dit à son tour le comte Auditz en riant.
Je le ferai. Dût-il couper la mienne, répondit le vieux professeur, qu'un peu de champagne rendait expansif et fanfaron. Consuelo avait été bien et dûment averti par le chanoine que la Prusse était une grande préfecture de police, où les moindres paroles, prononcées bien bas à la frontière, arrivaient en peu d'instants, par une suite d'échos mystérieux et fidèles, au cabinet de Frédéric, et qu'il ne fallait jamais dire à un Prussien, surtout à un militaire, à un employé quelconque, « Comment vous portez-vous ? » sans peser chaque syllabe, et tourner, comme on dit aux petits-enfants, sa langue 7 fois dans sa bouche. Elle ne vit donc pas avec plaisir son maître s'abandonner à son humeur narquoise, et elle s'efforça de réparer ses imprudences par un peu de politique. Quand même le roi de Prusse ne serait pas le premier musicien de son siècle, dit-elle, il lui serait permis de dédaigner un art certainement bien futile au prix de tout ce qu'il sait d'ailleurs. Mais elle ignorait que Frédéric ne mettait pas moins d'amour-propre à être un grand flûtiste qu'à être un grand capitaine et un grand philosophe. Le baron de Creutz déclara que si Sa Majesté avait jugé la musique un art digne d'être étudié, elle y avait consacré très probablement une attention et un travail sérieux.
« Bah ! » dit le Porpora, qui s'animait de plus en plus.
« L'attention et le travail ne révèlent rien, en fait d'art, à ceux que le ciel n'a pas doués d'un talent inné. Le génie de la musique n'est pas à la portée de toutes les fortunes, et il est plus facile de gagner des batailles et de pensionner des gens de lettres que de dérober aux muses le feu sacré. Le baron Frédéric de Trinque nous a fort bien dit que Sa Majesté prussienne, lorsqu'elle manquait à la mesure, s'en prenait à ses courtisans. Mais les choses n'iront pas ainsi avec moi. »
Le baron Frédéric de Trinque a dit cela, répliqua le baron de Creutz, dont les yeux s'animèrent d'une colère subite et impétueuse.
« Eh bien, » reprit-il en se calmant tout à coup par un effort de sa volonté et en parlant d'un ton d'indifférence. « Le pauvre diable doit avoir perdu l'envie de plaisanter, car il est enfermé à la citadelle de Glatz pour le reste de ses jours. »«
En vérité ? » s'écria le Porpora.
« Mais qu'a-t-il donc fait ?»«
C'est le secret de l'État, » répondit le baron.
« Mais tout porte à croire qu'il a trahi la confiance de son maître. »
« Oui, » ajouta le lieutenant, « en vendant à l'Autriche le plan des fortifications de la Prusse, sa patrie. »
« Oh, c'est impossible !» dit Consuelo, qui avait pâli, et qui, de plus en plus attentive à sa contenance et à ses paroles, ne put cependant retenir cette exclamation douloureuse.
« C'est impossible, et c'est faux !» s'écria le Porpora indigné.
« Ceux qui ont fait croire cela au roi de Prusse en ont menti par la gorge.
« Je présume que ce n'est pas un démenti indirect que vous pensez nous donner ?» dit le lieutenant en pâlissant à son tour.
« Il faudrait avoir une susceptibilité bien maladroite pour le prendre ainsi !»
reprit le baron de Creutz en lançant un regard dur et impérieux à son compagnon.
« En quoi cela nous regarde-t-il ? Et que nous importe que maître Porpora mette de la chaleur dans son amitié pour ce jeune homme ?»«
Oui, j'en mettrai, même en présence du roi lui-même, » dit le Porpora. « Je dirais au roi qu'on l'a trompé, que c'est fort mal à lui de l'avoir cru, que Frédéric de Trinque est un digne, un noble jeune homme, incapable d'une infamie. »
« Je crois, mon maître, » interrompit Consuelo, que la physionomie du capitaine inquiétait de plus en plus,
« que vous serez bien à jeun quand vous aurez l'honneur d'approcher le roi de Prusse, et je vous connais trop pour n'être pas certaine que vous ne lui parlerez de rien d'étranger à la musique. »
« Mademoiselle me paraît fort prudente, » reprit le baron. « Il paraît cependant qu'elle a été fort liée à Vienne avec ce jeune baron de Trinque. »«
Moi, monsieur ?» répondit Consuelo avec une indifférence fort bien jouée. « Je le connais à peine. »
« Mais, » reprit le baron avec une physionomie pénétrante, «
Si le roi lui-même vous demandait, par je ne sais quel hasard imprévu, ce que vous pensez de la trahison de ce trinque.
Monsieur le baron, dit Consuelo en affrontant son regard inquisitorial avec beaucoup de calme et de modestie,
je lui répondrai que je ne crois à la trahison de personne, ne pouvant pas comprendre ce que c'est que de trahir.
Voilà une belle parole, signora,
dit le baron dont la figure s'éclaircit tout à coup.
Et vous l'avez dite avec l'accent d'une belle âme.
Il parla d'autre chose et charma les convives par la grâce et la force de son esprit. Durant tout le reste du souper, il eut, en s'adressant à Consuelo, une expression de bonté et de confiance qu'elle ne lui avait pas encore vue.